Bonsoir. Cela fait 10 ans depuis que le rapport mapping des enquêtes d'experts des Nations Unies sur les crimes perpétrés en RDC entre 1993 et 2003 a été publié. Ce rapport recommande notamment la mise en place d'une juridiction spécialisée pour juger les auteurs de ces crimes. À l'occasion du 10e anniversaire de la publication de ce rapport, plusieurs manifestations ont été organisées à travers le pays par les organisations de la société civile, notamment à Bukavu et Kisangani, pour réclamer des poursuites judiciaires contre les auteurs des crimes mentionnés dans ce rapport. Ces organisations demandent en outre la vérité sur ce qui s'est passé et les mesures de réparation concrètes en faveur des victimes. Du côté gouvernement congolais, le ministre des Droits humains a évoqué les décrets en cours de préparation sur, d'une part, la mise en place d'une commission vérité et justice et de l'autre, un fonds d'indemnisation pour les victimes. Pourquoi les recommandations du rapport MAPI ils ne sont pas appliqués? Que faire pour les appliquer? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce mercredi 7 octobre 2020. Participe au débat Abdulaziz Thioy, directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC. Monsieur Aziz, bonsoir.
Bonsoir.
Julienne Lusenge, activiste de droits de l'homme et présidente du conseil d'administration de l'ONG Solidarité Féminine pour la paix et le développement intégral, sauf et pas dit en sigle. Madame Lusenge, bonsoir.
Bonsoir.
Nous aurons aussi dans cette émission Maître André Litté, ACBA, ministre des Droits humains. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment, mais aussi le général Tim Munkuto. Il est auditeur général de FRDC qui lui aussi va nous rejoindre dans un tout petit moment. Merci de nous suivre par ton RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Je l'ai dit, cela fait 10 ans depuis que le rapport mapping des enquêtes d'experts des Nations Unies sur les crimes perpétrés en RDC entre 1993 et 2003 a été publié. Ce rapport recommande notamment la mise en place d'une juridiction spécialisée pour juger les auteurs de ces crimes. Plusieurs organisations nationales et internationales, ainsi que des personnalités de grande envergure, demandent la mise en œuvre des recommandations du rapport mapping. Fin août dernier, le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, faisait déjà ce plaidoyer à la réunion de la sous-commission de droits de l'homme du Parlement européen par visioconférence. Mais qu'est-ce que le rapport mapping et que contient ce document? La réponse avec vous, Jacques-Yves Molima.
Il s'agit d'un rapport élaboré par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et publié en 2010. Ce rapport recommande la mise en place d'une juridiction spécialisée pour la RDC. En effet, ce rapport, résultat d'un travail d'enquête de près de 30 experts nationaux et internationaux pendant 12 mois, décrit les violations les plus graves des droits humains et de droits internationaux humanitaires commises en RDC entre 1993 et 2003. Au moins 617 incidents graves ont été répertoriés par ces experts des Nations Unies. Il s'agit de cas graves de massacres, des violences sexuelles et des attaques contre les enfants. Ces exactions ainsi documentées sont l'œuvre d'une série d'acteurs armés, notamment des armées étrangères sur le sol congolais, des groupes rebelles, voire même des forces du gouvernement congolais de l'époque. Tout était parti de la découverte macabre de 3 fosses communes dans la partie est de la République démocratique du Congo en 2005. D'après les conclusions de ces rapports, la majorité des crimes commis peuvent être qualifiés de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Cependant, cela ne peut être établi que par une juridiction compétente, d'où la recommandation de la mise en place d'une juridiction spécialisée pour la RDC.
Merci Jacques-Yves Molima pour ce petit rappel. Abdulaziz Thioy, je rappelle que vous êtes directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC. 10 ans après la publication du rapport mapping, les recommandations ne sont toujours pas appliquées. D'abord, c'était quoi l'objectif poursuivi en publiant ce rapport?
Merci beaucoup. L'objectif poursuivi en publiant le rapport était, comme le nom l'indique, parce que l'exercice était un exercice de cartographie des violations graves des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires commises sur le territoire de la République démocratique du Congo entre 1993 et 2003. Donc l'idée effectivement était de produire, rendre public le rapport en vue véritablement d'amener les autorités nationales congolaises qui avaient accepté que cet exercice puisse être conduit sur le territoire, de pouvoir prendre des actions nécessaires, c'est-à-dire initier des poursuites, mettre en place une commission et des mécanismes de justice de transition, évidemment y compris les mécanismes de poursuite judiciaire, mais aussi d'initier des actions de réparation, réforme du secteur de sécurité, mais aussi de vetting. Il y a un ensemble de recommandations qui ont été formulées à l'endroit des autorités congolaises et aussi de la communauté internationale, parce que évidemment il y a des entités étrangères qui avaient été identifiées. Et que je rappelle aussi que c'est un rapport des Nations Unies, donc initié à la demande du Conseil de sécurité, et qui normalement devait effectivement faire l'objet d'une prise en charge à la fois par le pays, avec le soutien de la communauté internationale.
Pourquoi ce rapport est-il important?
Alors, le rapport est très important, parce que le rapport reprend, reporte 617 des plus graves violations des droits de l'homme et des droits internationaux et humanitaires commises au cours d'une période de 10 ans. Par les acteurs étatiques et non étatiques dans le en République démocratique du Congo. Des dizaines de milliers de personnes ont été tuées et de nombreuses autres ont été violées, mutilées et, ou victimes d'autres formes de violence au cours de la décennie en question. Donc le rapport examinait également en détail les différentes options en termes de vérité et de réconciliation. Comme je dis, le rapport est important parce qu'il restitue, il évalue et établit des faits sur une période donnée. Et pour amener les autorités et les acteurs qui ont la responsabilité de prendre des actions, de le faire. C'était ça le but principal du rapport. Et parmi les actions à prendre, c'est effectivement de lutter efficacement contre l'impunité. Faire en sorte que ces faits-là ne puissent pas se reproduire. Parce que c'est ça l'objet d'un rapport. C'est l'utiliser comme un outil de plaidoyer. Mettre entre les mains des acteurs des éléments d'information qui leur permettent de prendre action, des actions judiciaires. C'est pour ça que le rapport met l'accent sur la nécessité de mener des enquêtes judiciaires, parce que le rapport, Mapping encore une fois, n'est pas un rapport d'enquête judiciaire, c'est un rapport d'enquête droit de l'homme. Il établit des faits, évidemment, de façon détaillée, pour donner la possibilité à des enquêteurs judiciaires, à la justice de se saisir de ces cas-là, et de pouvoir enquêter, et de pouvoir traduire, établir les responsabilités et traduire les auteurs en justice.
Alors, 10 ans après, aucun de ces crimes n'a été jugé. Les recommandations sont restées lettres mortes. Quelle démarche le Bureau conjoint de droits de l'homme a menée pour que ces recommandations soient appliquées?
Bon, d'abord, je voudrais corriger quelque chose. On a toujours tendance à dire qu'aucun cas n'a été jugé. Je dois juste dire qu'il y a 2 cas. Évidemment, au regard de l'immensité, au nombre très élevé de cas graves de violation des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires, 2 cas ne représentent absolument rien du tout. Donc, je voulais dire qu'il y a eu le dossier Ankoro, qui a eu lieu dans l'ancienne province de Katanga, qui a fait l'objet d'un procès. Il y a aussi un autre procès qui concerne des faits qui avaient été répertoriés dans le rapport Mapping et qui concernait également l'assassinat des MILOPS, des observateurs militaires de la MONUSCO, par une force, un groupe armé dans l'ancienne Ituri. Donc, c'est les 2 cas. En dehors de ces 2 cas, nous n'en avons pas connu d'autres. Il est vrai effectivement que il y a eu des tentatives pour faire un plaidoyer par les équipes qui nous ont précédés de déployer des efforts de plaidoyer. Plusieurs missions ont été envoyées en RDC pour s'engager avec les autorités et les différents acteurs, à la fois au niveau présidentiel, au niveau gouvernemental et au niveau parlement, et aussi acteurs de société civile, mais aussi avec d'autres partenaires, pour essayer au moins voir la possibilité de mettre en œuvre les recommandations. Alors, concernant les actions judiciaires, Il est vrai qu'au moment où le rapport a été publié, en même temps, quelques semaines avant, il faut vous rappeler que le Haut Commissariat avait également publié un autre rapport qui concernait les viols massifs dans le territoire de Wali-Calais. Ça, il faut aussi qu'on se rende bien compte qu'il y a eu, le 24 septembre, par exemple, de 2010, un rapport du Bureau conjoint des Nations Unies relatif aux viols massifs épouvantables de centaines de femmes et de filles sans défense qui concernaient le territoire de Wali-Calais. Ce dossier-là est en train aujourd'hui d'être traité par la justice congolaise. Ça concerne le dossier, Tcheka, qui est en train d'être. Il y a eu par la suite quelques cas qui ont été pris en charge par la justice congolaise. Je pense que l'auditeur militaire pourra davantage en parler. Il y a eu des forces de, je devrais dire, des défis ou des obstacles qui ont pu se poser aux poursuites. Mais quelque part, un travail a été fait.
Beaucoup de gens se posent la question de savoir quel est l'intérêt de parler de ce rapport aujourd'hui, 10 ans après. Il y a un nouveau régime qui est là. Pendant 10 ans, vous n'avez pas évoqué ou parlé de ce rapport. Pourquoi on en parle aujourd'hui?
Alors, 10 ans après, je pense qu'il y a une conjonction de facteurs qu'il faut prendre en compte. Depuis 2016, vous avez le Congo en prix Nobel de la paix, en l'occurrence en la personne du docteur Mukwege, qui fait un travail remarquable de plaidoyer. Et à la faveur de cette stature internationale, a utilisé son rôle de prix Nobel de la paix pour appeler effectivement, jeter la lumière sur le plaidoyer en faveur de la lutte contre l'impunité en RDC. Je pense que ça marche, c'est en train de marcher. Donc, c'est un apport de taille à tout le travail qui a été fait jusque-là par la société civile congolaise, par nous-mêmes et d'autres entités, pour appeler à la lutte contre l'impunité, qui nécessite, qui jette aussi la lumière sur les efforts à faire pour renforcer le travail qui est en cours et qui est en train d'être fait par la justice militaire de façon remarquable depuis quand même quelques années avec de maigres moyens. Et lui, il le souligne dans son plaidoyer. Il dit, la justice militaire congolaise fait un travail remarquable avec de maigres moyens et avec des difficultés sur le terrain. Donc, il faut un appui plus important. À cela s'ajoute l'avènement d'un deuxième facteur, l'avènement d'un nouveau pouvoir à Kinshasa. Vous avez un nouveau, à la faveur de l'alternance qui a eu lieu en décembre 2018, des dernières élections, vous avez un président qui, quelque peu, n'a pas été impliqué de direct ou indirect dans ce qui s'est passé. Et qui, dès l'entame de son mandat, a émis le vœu de s'engager résolument en faveur de la lutte contre l'impunité, de la promotion de la justice et de la vérité et de la réconciliation. Ce qui est, je pense, un engagement très louable, un engagement qu'il a réitéré à plusieurs reprises, à plusieurs occasions.
Entre-temps, il a dit qu'il n'allait pas finir dans le passé.
Oui, ça il l'a dit, mais il a dit aussi en décembre, si je me souviens, il a appelé à la création d'un mécanisme, d'un tribunal pour juger les crimes graves au Congo. Il est revenu il y a quelques mois encore une fois pour insister sur la nécessité de mettre en place des mécanismes de justice de transition. Et qui justice de transition, c'est à la fois mécanisme judiciaire et mécanisme non judiciaire. Donc, encore une fois, on se retrouve dans les recommandations qui ont été identifiées dans le rapport mapping. Mise en place, voilà.
On vous garde encore dans cette émission, Abdoulaziz, le temps pour nous de prendre le général Tim Munkuto. On me signale qu'il est en ligne, général Tim Munkuto, auditeur général d'IFRDC, bonsoir.
Bonsoir.
Nous parlons du rapport mapping ce soir dans notre magazine Dialogue entre Congolais. 10 ans après, les recommandations de ce rapport ne sont toujours pas appliquées. Qu'est-ce qui a été fait en termes des poursuites depuis la publication de ce rapport à votre niveau?
Bien, merci beaucoup. Il faut noter que dans le rapport mapping, il y a plusieurs entités qui entrent en jeu, des entités nationales, des entités étrangères. Et s'agissant des entités étrangères, la justice militaire n'est pas compétente, la justice militaire congolaise n'est pas compétente pour traduire en justice les entités étrangères. Ça, c'est une première chose. Il faut également noter que, au-delà du rapport mapping, il y a plusieurs autres cas de violations de droits de l'homme qui ont continué à être perpétrés. Alors, fallait-il se concentrer sur le rapport mapping ou faire face à des violations plus récentes, plus actuelles de droits de l'homme? Donc, nous faisons face à une multitude de cas de violations de droits de l'homme et nous essayons de mener des actions pour réprimer ces cas. Vous vous souviendrez plus récemment tout ce qui s'est passé au Kasaï. Nous sommes au Kasaï. Tout ce qui se passe à Beni, et au Nord Kivu et partout ailleurs. Donc, comme on dit, les champs est vaste, la moisson est vaste. Nous essayons d'y aller avec les moyens qui sont les nôtres et nous ne pouvons pas avoir la prétention de faire face à tout ce qui a été relevé comme violation des droits de l'homme dans les mappings.
Est-ce qu'il faut retenir, général, qu'il y a eu déjà des poursuites par rapport aux personnes ou aux militaires ayant violé les droits de l'homme pendant cette période?
Bien sûr qu'il y a eu plusieurs officiers, même des officiers généraux qui ont été poursuivis pour des violations, des graves violations de droits de l'homme. Même actuellement, il y a des procès en cours. Donc, nous continuons comme je disais, nous sommes un peu pris de court par l'immensité de la tâche et nous nous appesantissons sur les cas plus actuels. Par rapport à tous les cas relevés dans le rapport mapping. Donc nous sommes à la tâche. On peut vous citer des noms, on peut vous citer des dossiers, mais il y a plusieurs officiers qui ont été condamnés.
Pourquoi on a l'impression que rien ne s'est fait alors qu'il y a un travail qui s'est fait sur le terrain? C'est un manque de communication? Vous ne voulez pas médiatiser ces procès?
Peut-être bien, parce que par principe, nous sommes des militaires et l'armée est la grande muette. Donc, nous n'avons pas l'habitude de faire beaucoup de communication par rapport à ce qui s'est fait. Mais ceux qui nous observent constatent quand même que nous essayons de faire le mieux par rapport à l'immensité de la tâche.
Mais la population a besoin de savoir, de connaître ce que fait la justice militaire par rapport à tous ces crimes. On a l'impression que les enquêtes que mène la justice militaire, ces enquêtes prennent beaucoup de temps et cela peut même amener la population à perdre confiance dans les procédures judiciaires initiées par la cour militaire.
Bon, nous essayons de faire en sorte que les témoins de l'infraction soient également les témoins de la répression. Vous allez observer que dans la plupart des cas, lorsqu'il y a eu violation massive des droits de l'homme et lorsque les conditions de sécurité les permettaient, nous avons eu à siéger là où les infractions, les violations graves des droits de l'homme auront été commises. Donc la population est quand même informée parce que nous tenons à faire en sorte que le procès se passe, si pas au lieu de la commission, mais le plus près possible du lieu de la commission, pour que ceux qui ont été témoins des violations massives des droits de l'homme soient également témoins de la répression. Comme vous dites, peut-être que nous ne communiquons pas assez, c'est un peu une tare de notre métier qui veut que nous puissions être la grande muette.
On me signale que le ministre n'est pas encore en ligne. Julien Lusenge, vous êtes avec nous. Je rappelle que vous êtes activiste de droits de l'homme et présidente du conseil d'administration de l'ONG Solidarité Féminine pour la paix et le développement intégral, sauf et pas dit, en sigle. Plusieurs manifestations ont été organisées à travers le pays par les organisations de la société civile pour réclamer des poursuites judiciaires contre les auteurs des crimes mentionnés dans ce rapport mapping 10 ans après. C'est vrai que Monsieur Aziz dit qu'il y a quand même certaines recommandations qui ont été appliquées, mais la majorité des recommandations sont restées lettres mortes. Pourquoi, selon vous?
Oui, merci beaucoup de m'avoir invité à cette émission. Oui, nous savons toujours que parfois, les Nations Unies vont à deux vitesses avec le Congo. C'est les Nations Unies même qui ont décidé de faire ces enquêtes et après, on les a vus enterrer dans les tiroirs. Mais c'est depuis longtemps que nous crions que les rapports puissent être mis en œuvre. Mais nous savons que c'est un projet. Et dans l'introduction de ce rapport, il a été dit, c'est au gouvernement congolais de mettre en application, de mettre en œuvre ce projet. Donc, de faire en sorte que les recommandations qui ont été émises dans ce rapport soient implémentées. Et c'est au peuple congolais de s'approprier le rapport mapping pour qu'on voit la réalisation, pour qu'on voit les poursuites démarrer, pour qu'on sache la vérité. Et donc, c'est depuis longtemps que le peuple congolais attend ce rapport, attend l'implémentation de ce rapport. Nous, notre coalition congolaise pour la justice traditionnelle, depuis 2005, nous avons commencé à crier pour qu'on puisse mettre en œuvre ces rapports et qu'on puisse aussi nous aider à avoir une chambre mixte ou un tribunal spécial pour le Congo. Mais bon, on n'est toujours pas écouté. Heureusement que pour le moment, notre prix Nobel est en train d'amplifier la voix. Donc, les recommandations de ce rapport demandent à ce qu'on puisse arriver à voir des tribunaux spécialisés pour le Congo ou alors des chambres mixtes. Et moi, j'ai dit, s'il n'y a pas de chambres mixtes, qu'on fasse alors une formation pour un grand nombre de magistrats, des juges congolais qui vont mettre en place des tribunaux conséquents, qui vont travailler dans toute indépendance pour arriver. Donc, la communauté internationale devrait aussi, parce que c'est dit dans l'introduction comme recommandation à la communauté internationale, devait aider le Congo à mettre en œuvre l'implémentation de ces recommandations. Donc, il faut que la communauté internationale aide le Congo. Je sais que le Congo, le gouvernement congolais tout le temps se plaint des moyens, mais j'ai dit non, il y a les moyens. Si on met tous les moyens ensemble au Congo, toutes les ressources, toutes les recettes, on met ça ensemble et on partage équitablement, il y aura de l'argent pour mettre en place ces mécanismes. Et aussi la communauté internationale qui a quelque sorte initié le rapport, mais qui connaît aussi les auteurs parce qu'ils ont la liste des gens qui ont été cités dans le rapport, qui puissent aider à ce que ça soit implémenté. Et j'ai dit, les compagnies minières qui ont bénéficié de ces graves violations pour s'enrichir doivent aider à ce qu'on puisse avoir un fonds pour la réparation pour les victimes. Donc, la communauté internationale doit jouer un grand jeu avec le Congo. Les Congolais ont trop souffert. Pour les autres, on crie beaucoup, on fait des choses, mais quand ça arrive pour le Congo, ça devient trop cher. On nous disait que le tribunal spécial pour le Congo coûte trop cher. On disait que les chambres spécialisées, ça ne peut pas se faire parce que ça va demander trop de moyens, trop de ressources. Mais nous disons, toutes les ressources qu'on ramène au Congo, qu'on ramasse au Congo, c'est plus que ça. Les vies humaines ne vaut pas l'argent. Et donc, il faut que le gouvernement congolais mette en place des mécanismes, commence vraiment à faire la lutte contre l'impunité, et la communauté internationale doit mettre les moyens et les ressources pour aider, les ressources humaines bien sûr, pour aider la justice à avancer et aussi pour que les victimes puissent avoir la réparation.
Monsieur Aziz, vous avez suivi Madame Lusenge qui est revenue plusieurs fois sur la communauté internationale qui doit jouer franc jeu avec la RDC, qui doit aider la RDC à mettre en œuvre les recommandations de ce rapport. Il y a cette ONG de droits de l'homme, CEPADO, qui demande même la publication de la liste des personnes physiques ou morales identifiées comme auteurs des graves violations reprises dans le rapport mapping.
Cette question-là, elle est revenue à plusieurs reprises. Je pense que j'ai, la semaine dernière, indiqué que le Haut Commissariat a été interpellé sur ce sujet. Et la réponse qui a été faite par la Haute Commissaire à l'époque était de dire que si un tribunal compétent est mis en place, la base de données sera mise à la disposition de la juridiction. Si vous regardez les rapports, le général Mukuntu a rappelé tout à l'heure qu'il y a eu, il ne l'a pas, c'est pas le terme qu'il a utilisé, il y a eu un rapport sur le Kasaï, qui était un mini-mapping, parce que c'était une cartographie des violations graves des droits de l'homme, du droit international et humanitaire, demandée par le Conseil des droits de l'homme. Une résolution a été votée. Le même rapport, si vous regardez bien, ne publie pas la liste des présumés auteurs. Et j'ai dit et répété que pour tous les rapports que nous avons établis, rapports d'enquête, avant le rapport mapping ou après le rapport mapping, nous avons des listes d'auteurs présumés. Et ces listes-là sont communiquées à chaque fois qu'une action judiciaire est ouverte. Le général Mokuntu peut en témoigner. À chaque fois qu'une action est ouverte, que des enquêtes conjointes sont organisées, qu'un procès est ouvert, nous avons mis à disposition les listes d'auteurs, les sources, ainsi, les victimes et les témoins. Parce que comme il l'a dit, effectivement, il faut des témoins de l'incident, des violations, mais il faut également des témoins pour le procès. Et nous travaillons sur tous ces niveaux-là. Et c'est une pratique qui existe dans ces pays depuis au moins après la publication des rapports, où des efforts ont été faits pour organiser, soutenir la justice militaire, qui avait la compétence exclusive à l'époque pour organiser des enquêtes conjointes sur des faits qui avaient fait l'objet d'enquête, sur la base des informations fournies, mais aussi d'organiser sur le terrain, comme il le dit, des audiences sur les lieux même de commission des violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire.
Elle a parlé aussi de la formation des magistrats, que la communauté internationale puisse aider à la formation des magistrats qui peuvent juger tous ces crimes repris dans le rapport.
Le général Mokuntu est mieux placé que moi pour répondre à cette question-là. Parce que nous avons, je pense que la justice militaire congolaise aujourd'hui a acquis des lettres de noblesse en termes de performance. Je crois que dans tous les rapports que vous allez lire sur le Congo en matière de lutte contre l'impunité, tout le monde dit oui, il faut poursuivre les efforts de lutte contre l'impunité, mais malgré tous les efforts et les performances de la justice militaire congolaise. Donc, vous voyez. Et cela a été possible grâce au travail conjoint qui a été fourni par les différents partenaires, les membres de la communauté internationale, MONUSCO, UNDP et d'autres partenaires, l'Union européenne et autres, qui sont venus apporter un appui, c'est vrai, ponctuel, sur des cas précis, dans des domaines précis. J'ai parlé des cellules d'appui aux poursuites, j'ai parlé effectivement aussi de la possibilité d'organiser des enquêtes conjointes avec un appui logistique, sécuritaire, sur le terrain, qui ont permis de pouvoir organiser cela. Donc, quelque chose a été fait, mais peut-être pas au vu de l'immensité de la tâche. C'est un goutte d'eau dans un océan. Ça, il faut qu'on le reconnaisse. Oui.
Alors, les auditeurs sont nombreux à appeler, mais signalent la réalisation. On va prendre pour vous, Abdulaziz, cet auditeur qui nous appelle depuis Goma, au nord Kivu.
Je suis Hubert Masomeko, à partir de Goma, dans la province du nord Kivu. Je pense par rapport au rapport Mapping aujourd'hui qui est en train de prendre de la poussière dans les tiroirs des Nations Unies. Il y a des facteurs qui font à ce que les Nations Unies ne diligentent pas d'enquête pour établir des responsabilités. Premièrement, il y a la complicité de cette fameuse communauté internationale dans ce crime perpétré à la République démocratique du Congo. De grandes puissances ont manipulé certains États qui sont cités entre autres les Rwandais et l'Ouganda pour extraire illicitement nos minéraux. Et ils ont comploté, ils ont soutenu ces États pour dépouiller notre pays de ses richesses. De notre côté, il y a la faiblesse de la diplomatie de la République démocratique du Congo qui ne s'impose pas pour faire accepter au monde entier qu'il y avait des crimes graves qui ont été perpétrés contre les citoyens congolais et que justice doit être rendue. De ces deux côtés, je pense qu'il est temps que la diplomatie congolaise puisse être de plus en plus agissante et faire admettre au monde entier que des crimes graves ont été commis en République démocratique du Congo et il faudra à tout prix la création de ce tribunal spécial international pour juger ces crimes qui sont jusque-là imprescriptibles et qui ont coûté la vie à des millions de Congolais.
Monsieur Abdelaziz.
D'abord, confirmer effectivement que le rapport Mapping ne croupit pas dans des tiroirs. C'est un rapport public, donc qui est accessible. Évidemment, il est volumineux. Beaucoup en parlent sans l'avoir lu. Donc, c'est la première remarque que je voudrais faire. Bon, peut-être que...
Manque de sensibilisation.
Écoutez,
de s'approprier le rapport.
Il y a eu beaucoup de séminaires, beaucoup d'ateliers de réflexion autour du rapport Mapping. Il y a eu des ateliers de plaidoyer qui ont accompagné le plaidoyer pour la création des chambres mixtes en 2013. Il y a eu des ateliers dans ce pays pour sensibiliser société civile, communauté internationale et les parlementaires pour l'adoption du projet de loi sur les samples mixtes, qui a été rejeté par le Parlement à l'époque. pour des raisons tenant à la Constitution, mais également aux lois qui aux lois sur l'organisation judiciaire. Donc, qui ne permet pas effectivement à du personnel étranger de siéger dans des juridictions congolaises. Donc, il fallait faire des réformes qui n'ont pas été, ce qui a peut-être fait en sorte que ça n'a pas pu être possible. Donc, le rapport ne dort pas dans les tiroirs. C'est tout ce qu'ils disent aujourd'hui. Oui, le rapport dort dans les tiroirs, c'est voudrait connaître un peu qui sont les auteurs, la liste des auteurs présumés qui n'a pas été rendue publique. C'est pour les raisons que j'ai évoquées. Donc, c'est pour la protection des sources, c'est pour la protection de l'identité des victimes et des témoins que les listes des auteurs présumés ne sont pas publiées. Évidemment, le rapport a mentionné les entités qui pourraient être impliquées, des groupes armés, des pays et des entreprises multinationales qui auraient pu être impliquées dans l'exploitation des ressources naturelles. Et ça, c'est dans le rapport. Si vous lisez le rapport, vous trouvez même des noms de pays et des noms de groupes armés qui ont été impliqués. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une volonté quelque part de cacher ou de soustraire à l'attention du public ces éléments d'information que les collègues ont mis du temps à mettre ensemble avec minutie, rigueur et beaucoup de professionnalisme.
Général Tim Munkuto, on va prendre aussi pour vous cet auditeur qui nous appelle depuis Kalanga, dans la province du Kasaï central.
Maître Alidor Mampouya, discussion la non-mise en application des recommandations du rapport Martin 10 ans après sa publication. La cause est simple, c'est que beaucoup d'auteurs de massacres sont dans différentes institutions, aussi bien au sein du gouvernement, du Parlement congolais, que des forces de l'ordre et de la sécurité. C'est pourquoi ces rapports tardent à être mis en pratique. Ces différents auteurs de ces massacres évitent d'être pointés du doigt une fois le tribunal international spécial institué pour enquêter sur ces massacres. Le vœu de toutes les victimes et de toute la population est de voir instituer une juridiction pénale à caractère international pour juger les auteurs et réparer les préjudices causés aux milliers de victimes. Le tribunal international d'Arusha pour le génocide de Rwandais avait permis d'arrêter l'hémorragie des crimes graves au Rwanda. Et ce tribunal, tant attendu, permettra également d'arrêter les différents massacres qui se commettent nuit et jour à l'est du pays et à d'autres parties de la RDC.
On s'excuse pour la qualité de la ligne, général Tim Munkuto. Je vais ajouter cette autre réaction de Samy qui nous a écrit depuis Kinshasa et qui demande si au niveau de la justice militaire, il vous arrive de faire des remises à niveau des magistrats militaires pour leur permettre d'identifier des cas des crimes, des guerres et de pouvoir les juger.
Bien, merci beaucoup. Je commence par la remise à niveau. Tout à l'heure, Monsieur Aziz l'a dit peut-être. Nous avons bénéficié régulièrement de l'appui du BCDNUH et d'autres partenaires pour la remise à niveau de magistrats. Mais nous avons un problème d'effectifs qui dépend du budget de l'État. Nous n'avons pas encore été autorisés au niveau du Conseil supérieur de la magistrature de pouvoir engager de nouvelles unités. D'ailleurs, je viens d'une réunion du bureau du Conseil supérieur. On a évoqué la situation. Nous avons besoin davantage d'effectifs, mais nous avons au niveau de la justice militaire, nous avons trouvé une sorte de palliatif. Nous avons demandé à l'état-major général de mettre à notre disposition tous les licenciés en droit qui ont fait l'académie militaire, de manière à ce que nous puissions les utiliser comme inspecteurs judiciaires en insistant sur les genres. Et grâce aux partenaires, notamment les BCDNUH, nous avons pu former plusieurs inspecteurs judiciaires qui sont déjà déployés sur le terrain. D'autres vont former en attendant que le concours pour la magistrature soit organisé, où ces jeunes gens qui sont aujourd'hui inspecteurs judiciaires, auxquels ces gens pourront participer pour qu'ils deviennent magistrats. Nous avons énormément besoin de personnel pour faire face à l'intensité et l'étendue des violations flagrantes de droits de l'homme dans notre pays.
Et comment vous répondez à la préoccupation de Maître Alidor qui nous a appelé depuis Kalanga au Kasaï central?
Bon, un tribunal spécial pour la RDC, ça pourrait être une bonne chose dans la mesure où, comme je vous ai dit, les juridictions nationales ne sont pas compétentes pour juger les ressortissants des forces armées étrangères, mais un tribunal spécial pourrait le faire. Ça serait une bonne chose. Bon, s'agissant des tribunaux mixtes, bon, les débats autour des tribunaux mixtes demeurent, parce que les tribunaux mixtes n'auraient pas plus de compétences que les juridictions nationales. Alors, il ne serait pas d'une plus grande dignité. Moi, je pencherais plutôt pour un tribunal spécial pour la RDC, qui pourrait avoir une compétence au-delà de la compétence territoriale des juridictions congolaises.
Le ministre n'est toujours pas avec nous, pourtant il a donné son accord de principe de participer à cette émission. On va poursuivre ce débat avec nos trois invités dans ce studio. Abdulaziz Otioi, directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC, général Tim Mukunto, auditeur général des FRDC, madame Julienne Lusenge, activiste de droits de l'homme et présidente du conseil d'administration de l'ONG Solidarité Féminine pour la Paix et le Développement Intégral, Sophie Padi. Julienne Lusenge, on va prendre aussi pour vous cet auditeur qui nous appelle depuis Bukavu.
Maintenant, Kakumbu, juste à Bukavu. Ce rapport qui a été produit par les experts des Nations Unies pour montrer leur volonté de combattre avec les Congolais à tous ces crimes qui ont été commis. À mon avis, c'est le gouvernement congolais qui n'a pas la volonté de faire appliquer les recommandations de ce rapport. Car l'ONU a déjà fait sa grande part de responsabilité en donnant le nombre de crimes commis pour améliorer et pour appliquer ce rapport. Le gouvernement congolais devrait d'abord instruire les instances judiciaires présentes avant d'installer la juridiction compétente pour arrêter tous les bourreaux qui ont commis ces massacres.
La ligne téléphonique n'est pas très très bonne. Je crois que vous avez suivi la réaction de cet auditeur, Manguele Jules, Julien Lusenge, qui parle de manque de volonté politique de la part des autorités congolaises pour mettre en application toutes les recommandations issues du rapport Mapping.
Bon, oui, vous savez que j'ai dit au début que le rapport a dit l'implémentation de ce rapport dépend du gouvernement congolais et de la population, l'appropriation du peuple congolais. Et donc, c'est au peuple congolais de s'approprier ce rapport. Et c'est le gouvernement qui devait mettre aussi les moyens et adopter une coopération agissante, comme l'un des auditeurs a dit, pour que ça marche. Mais il y a les contraintes, M. Aziz a dit ça tantôt, par rapport à notre constitution, qui n'accepte pas, qui n'autorise pas à un étranger à siéger chez nous. Et donc, la volonté, c'est que le gouvernement congolais ou les parlementaires congolais, s'ils se reconnaissaient élus du peuple, ils sont là pour parler au nom du peuple, pour aider la population, devraient faire en sorte qu'on puisse prendre des mesures pour annuler cet obstacle, pour qu'enfin, on puisse avoir si le gouvernement met les moyens et la communauté internationale aussi. Donc, il y a des choses qu'on peut faire, mais seulement on ne le faisait pas. C'est comme un autre auditeur a dit, finalement, avec les années, quelques auteurs se sont retrouvés dans des positions politiques, positions militaires, positions je ne sais pas quoi, et finalement, ils ont bloqué, ils n'ont pas l'intérêt qu'ils puissent être appelés un jour devant la barre pour répondre. Et on n'a pas pu mettre en place, notre serveur n'a pas fonctionné. Notre serveur Commission Vérité et Réconciliation n'a pas fonctionné, qui pouvait aussi nous aider à arriver à implémenter ces recommandations, à avoir ce tribunal spécial. Parce que là, on pouvait, avec la Commission Vérité et Réconciliation, la justice transitionnelle demande à ce qu'il y ait les poursuites, il y ait les réparations, il y ait la vérité, il y ait aussi le vetting, pour qu'on puisse un peu filtrer les noms de toutes ces personnes qui ont commis des crimes à ne pas se retrouver dans les positions de pouvoir. Parce qu'une fois qu'ils sont là, c'est comme ça qu'ils bloquent les choses. Nous, notre coalition, a fait des argumentaires pour proposer des chambres mixtes. Nous avons fait aussi des propositions pour proposer la commission vérité et réconciliation. Nous avons évalué la sienne évaluation, la sienne sévère, commission vérité et réconciliation. Et nous avons proposé des recommandations pour une nouvelle commission vérité et réconciliation. malheureusement, avec le pouvoir passé, ça n'a pas été, on n'a pas été attendu. On n'a pas été écouté.
Vous pensez qu'avec le pouvoir actuel, vos recommandations pourraient être prises en compte?
Bon, nous voyons le président faire des déclarations, des promesses. Mais ce que nous attendons des actions concrètes. Il y a déjà trop de promesses pour les Congolais. Les promesses, ce sont des déclarations. Nous voulons avoir des actions concrètes. C'est vrai, la lutte contre l'impunité, oui. Mais alors qu'on voit la lutte contre l'impunité, on a vu les magistrats ici et les juges se réveiller pour la lutte contre l'impunité. Mais aujourd'hui, on ne sait plus qui les a polarisés. On n'entend plus parler la justice. On se demande qu'est-ce qui se passe. Donc, on voudrait quand même que le président, une fois prononcé, une fois fait la déclaration, qu'il mène des actions, que ce gouvernement fasse des actions concrètes dans le sens de la lutte contre l'impunité effective. La lutte contre la corruption, effectivement. Comme ça, la population va se dire, ok, maintenant là, on a une nouvelle ère qui commence et on va avancer.
Abdelaziz Thioye, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre en application au moins les trois quarts des recommandations du rapport Mapping?
Écoutez, il faut de la volonté politique. Je pense que le général Mokuntu l'a dit, Julien a rebondi là-dessus. Je crois que la justice militaire, même si elle n'a plus la compétence exclusive, il y a une loi qui est intervenue en 2013-2014, si je ne m'abuse, qui est là-bas sur les compétences partagées, qui attribue des compétences qui étaient jusque-là dévolues à la justice militaire, aussi à la justice civile au niveau des chambres, au niveau des cours d'appel. Il est possible à ce niveau-là peut-être de voir un peu la créativité. Il faut nécessairement augmenter le nombre d'effectifs de magistrats. La justice militaire, elle fait un très, très bon travail, mais elle avance à son rythme compte tenu du nombre d'effectifs, de l'effectif qui est réduit, et des moyens qu'il a mis à sa disposition, qui ne sont pas aussi du niveau de ce qui est attendu pour traiter avec diligence et célérité tous les cas qui sont portés à son attention. Donc il faut une volonté politique. La volonté politique serait d'accroître les budgets, d'augmenter le niveau de le recrutement, renforcer la formation, les équipements, les infrastructures et les déployants en nombre suffisant pour partout. Ça permettrait déjà au moins de pouvoir traiter les cas qui sont les plus accessibles et d'aller de l'avant. Donc je pense que c'est important. Et comme Mokuntu l'a dit, il faut effectivement, et sa décision appartient à l'État. Il y a eu un rapport mapping sur le format du rapport mapping congolais en République centrafricaine. Après cela, les autorités en place ont pris leurs responsabilités. Donc il y a un tribunal spécial sur la Centrafrique aujourd'hui, et dont le procureur est un Congolais, qui a travaillé, qui vient de la justice militaire congolaise, et qui a été sélectionné en raison des performances de cette même justice congolaise, et qui est en train de faire un travail remarquable. Donc il est possible de le faire. Et je pense aux autorités congolaises de pouvoir travailler à cela. Alors, sur la question de la CVR, le rapport mapping demande la création d'une nouvelle CVR, tenant compte de l'échec de la précédente commission. Le rapport aussi parle de consultation nationale. Il y a aujourd'hui quelque chose qui est dans le pipeline, des projets de décret visant à créer une commission justice et réconciliation, une commission vérité, justice et réconciliation, je crois, nationale, mais il y a aussi un fonds d'indemnisation. Évidemment, c'est une très bonne initiative. Il faut commencer quelque part. Ce qu'on souhaiterait effectivement, c'est qu'il y ait de larges consultations autour de ces mécanismes-là qui vont intéresser l'ensemble du pays. Et comme j'ai dit encore une fois, le rapport mapping concerne une époque de l'histoire du Congo. Il faut l'envisager et y faire face avec beaucoup de rigueur, sans parti pris et avec beaucoup de sérieux. C'est extrêmement important parce que vous allez ouvrir des plaies qui n'ont pas cicatrisé profondément et des traumatismes physiques et psychologiques devront être pris en charge. Je ne suis pas sûr que nous avons aujourd'hui tout ce qu'il faut pour prendre en charge tous ces traumatismes-là, avec tous ces millions de Congolais qui, directement ou indirectement, ont été affectés par cette violence qui rythme le quotidien de ce pays depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc, vous voyez. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Les Nations Unies sont là pour continuer à appuyer. Le général Mokuntu a parlé du Kasaï, où vous avez aujourd'hui des experts médico-légistes qui sont là, qui aident à ouvrir des fosses, analyser, restituer les restes, les mettre ensemble pour leur donner une sépulture décente. C'est ça aussi le travail qu'il faut faire. Il y a tout son travail de mémoire à faire. C'est-à-dire qu'il faut établir la vérité, permettre aux populations de connaître véritablement ce qui s'est passé et de peut-être faire face à ce passé-là de manière à pouvoir se donner la main et de reconstruire ce pays qui a besoin réellement de lutter contre l'impunité pour faire construire une paix juste et durable.
Alors Abdelaziz, il y a une question pour vous qui vient de Francis Lumbwe depuis Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Il demande si la Cour pénale internationale peut juger les crimes décrits dans le rapport Mapping.
La réponse, elle est connue, parce que certains crimes ont été commis avant que le Congo ne ratifie le statut de la Cour pénale. Donc, je pense que...
Le statut de Rome.
Le statut de Rome. Donc, de façon très claire, donc, c'est très difficile. C'est pour la raison pour laquelle la Cour pénale ne s'est pas saisie de certains faits qui sont décrits dans le rapport, qui, du point de vue de la qualification, tombent dans le champ de compétences compétences matérielles de la Cour. Malheureusement, les faits ont lieu avant la ratification, donc on ne peut pas, la Cour ne pouvait pas se saisir de ces cas-là. Par contre, la Cour s'est saisie de cas qui ont un lien quelque part de connexité avec quelques faits qui ont été décrits ici. Parce qu'il faut se dire peut-être qu'il y a une continuité de certaines situations qui se sont étendues au-delà de la période qui couvre où la Cour pénale est compétente. Par exemple, les conflits de l'Ituri. On a vu, par exemple, la Cour se saisir les premiers cas qui sont les plus connus de la Cour pénale internationale, c'est Germain Katanga, Martin Djougolo et tout ça. Donc tous ces cas-là concernent le conflit de l'Ituri qui a commencé, dont une partie est couverte par le rapport Mapping.
Général Tim Mukuntu, qu'est-ce que vous proposez pour une bonne application des recommandations du rapport Mapping?
Bien, nous disons, en tout cas, pour la justice militaire, il nous faut davantage de moyens humains, moyens matériels, moyens financiers pour essayer de faire face d'abord aux cas actuels et de remonter dans le temps pour arriver aux cas qui sont relevés dans le rapport Mapping, tout en notant que il y a des faits qui vont échapper à la compétence de la Cour, enfin des juridictions militaires, du fait que les responsables relèvent des entités étrangères. Parce que là, nous allons être butés à cette difficulté. C'est pour ça que nous disons qu'il faudrait peut-être penser à un tribunal spécial pour la RDC. Il faut également penser à l'indemnisation des victimes. Il y a plusieurs victimes qui ont bénéficié des condamnations à leur bénéfice des dommages et intérêts, mais qui jusqu'à présent n'ont pas été effectivement dédommagées. Et nous saluons l'initiative en cours au niveau du gouvernement de la création d'un fonds d'indemnisation pour les victimes, parce que aujourd'hui vous prononcez des dommages et intérêts à faveur des X, Y, le lendemain les victimes viennent vous voir, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Mais finalement il n'y a pas de solution, ça laisse un peu un goût d'inachevé des actions que nous menons. Nous aurions voulu qu'effectivement lorsque des victimes bénéficient des dommages intérêts, qu'elles puissent effectivement être dédommagées.
Général Tim Mukuntu, c'était un plaisir de vous avoir dans cette émission. On va considérer vos propositions comme votre conclusion. Julienne Lusenge, je vous repose aussi la même question. Que faut-il pour une bonne application des recommandations du rapport Mapping?
Merci beaucoup. Comme les autres ont déjà dit ce qu'il faut faire, je vais juste ajouter. Je pense qu'il faut qu'il y ait une coopération judiciaire dans la région des Grands Lacs. Parce que les gens qui ont été cités, certains sont dans la région des Grands Lacs, sont même des tiers dans la région des Grands Lacs. Donc, il faut que l'Union africaine puisse faciliter cette commission-là de la coopération judiciaire dans la région des Grands Lacs pour vraiment qu'elle puisse travailler, pour que le Congo puisse être en mesure de demander les auteurs qui sont à l'extérieur pour venir comparaître. Mais aussi, au niveau international, il faut que la communauté internationale nous aide, parce qu'il y a des auteurs intellectuels de ces massacres et de ces violations. Ces auteurs-là doivent répondre. Donc, il faut qu'on arrive aussi à les amener Bon, je sais que c'est une utopie que je suis en train de dire parce que la vie d'une Congolaise ou d'un Congolais ne vaut pas la vie de telle personne. Je ne sais pas si un jour on va s'amener, mais il faudrait qu'ils puissent aussi répondre. Parce que on sait où on a planifié tout ce qui nous arrive ici. On sait c'est dans quel pays et qui sont les grands des leaders du monde qui ont fait ça. Donc ces gens-là doivent aussi répondre à ça. Il faut aussi qu'on puisse avoir des prisons. Une fois que ces tribunaux sont là, ou ces chambres mixtes sont là, il faut maintenant avoir des prisons où on va mettre ces gens-là qui ont commis ces crimes. Et aussi, par rapport à la réparation, je me dis, souvent le gouvernement congolais dit qu'il n'a pas de moyens. Et moi, je dis, il doit mettre les moyens, il doit mettre sa part pour que les autres puissent aussi mettre leur part. La communauté internationale aussi mettre sa part. Les compagnies minières qui ont bénéficié de toutes ces violations graves des droits de l'homme dans notre pays doivent être aussi doivent mettre de l'argent de fonds dans ce fonds de réparation pour les victimes. Et là, il faut des réparations collectives et des réparations individuelles. Parce que les victimes nous disent toujours, mais si on construit de la tour, moi aussi je vais aller boire là-bas, l'auteur des violations aussi va aller boire là-bas. Si c'est l'école, son enfant aussi va aller étudier là-bas. Donc, il faut qu'on ait aussi des réparations individuelles parce que les victimes sont restées avec les séquelles. Il y en a qui sont restées avec les maladies incurables. Il y en a qui sont restées avec les déformations. Au niveau de la hanche, ils ne peuvent plus faire un travail pour continuer sa vie. Elles veulent bien participer au développement, mais comment elles vont faire? Donc, il faut qu'on voit comment donner des réparations individuelles. Et il est temps que on fasse les vettings dans notre pays pour extraire tous ces gens, ces graves auteurs des crimes de violences sexuelles ou d'autres formes de violence ou des violations des droits de l'homme dans le pouvoir. Que ces gens ne puissent pas continuer à prendre le pouvoir pour bloquer. Et il est temps que les députés congolais qui nous suivent à ce moment, j'espère, qu'ils puissent prendre des mesures pour qu'on arrive à avoir un tribunal spécial pour le Congo ou alors des chambres mixtes spécialisées pour qu'on avance.
Merci.
Il faut qu'on n'attend plus demain, c'est à partir d'aujourd'hui qu'on avance sur ces questions-là.
Merci Julienne Lusenger. Doulaziz, tu as une dernière question avant de nous séparer. Vous pensez que tôt ou tard, les victimes obtiendront justice et réparation?
J'en suis convaincu. J'ai l'habitude de dire, je représente le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme. Il y a certaines catégories de crimes sont imprescriptibles. Évidemment, le temps joue en défaveur des victimes et des témoins. Malheureusement, les faits qui sont décrits dans le rapport Mapping remontent à la période de 1993-2003. Donc, vous voyez, ça remonte à très longtemps. Donc, peut-être qu'entre-temps, certains ne seront plus de ce monde. Mais au moins, évidemment, c'est un tort qui a été porté à des individus, mais également à la communauté qui est locale, mais aussi à la communauté nationale. Donc, il ne faut pas désespérer. Il faut continuer à pousser, à réclamer, et s'assurer effectivement que le moment venu, justice pourra être rendue. Les éléments de preuve ont été conservés. Les Nations Unies ont des archives, mais les autres entités ont également des archives. Donc je pense que tout ce travail-là pourrait se faire, mais l'essentiel, effectivement, c'est que le Congo puisse repartir du bon pied et dans la cohésion nationale en vue de bâtir une paix durable et un développement durable.
Merci. Abdoulaziz Thioye, directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce magazine. Guy Maté, Axel Gonto, merci à Polydor Basunga qui était à la mise en onde. Présentation et coordination, Kéline Couté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.